Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En ce premier vendredi du mois, c'est avec nos messieurs cinéma que nous avons rendez-vous pour aller rêver un peu dans les salles obscures, en fil rouge des trois films de ce mois-ci. Ce pourrait être la nostalgie. Difficile de ne pas être empreint d'une pointe de nostalgie lorsque l'on fait un film sur la mort. Avec Être vivant et le savoir d'Alain Cavalier, pour le film à l'affiche, la nostalgie de trois camarades de guerre, se retournant dans l'Italie des années 70 sur leur vie et leurs idéaux déçus. Pour nous, nous sommes tant aimés des Ettore Scola et chef-d'œuvre humaniste du mois. Et enfin, la nostalgie de la pureté de nos cœurs d'enfants, seuls capables de réellement voir Dieu, pour Pan et Vino, chef-d'œuvre spirituel de ce mois-ci de Ladislao Vajda. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau fidèle au poste, Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, N'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi de 19h à 20h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Paul Dima, intervenant cinéma pour les Coteaux Païs, centre jésuite dans le sud-ouest. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour aussi à tous les auditeurs.
Voilà, merci beaucoup d'être fidèle au rendez-vous. Comme d'habitude, nos trois films au menu. En écrivant l'introduction, alors vous avez peut-être trouvé que c'est une question piège pour commencer, je me suis dit quand même, il y a vraiment une magie autour des salles obscures. Quelle est cette magie du cinéma, Louis-Marie Solaire, en introduction, là, comme ça, en deux phrases? Non, vous pouvez, plus de deux phrases, mais je sais pas, au long des années, vous vous dites quoi?
C'est compliqué. Pour moi, c'est toujours pareil. Il y a toujours la même excitation, quel que soit le film que je vais voir, il y a toujours la même excitation de découvrir quelque chose qui va m'impressionner, qui va me retourner, qui va m'enchanter, qui va me faire rire, qui va me faire pleurer, oui, ça m'arrive, d'écraser une larme. Et ce que j'aime par-dessus tout, alors ce qui est un peu passé maintenant avec les nouvelles salles, ces complexes qui a disparu, c'est cette odeur qui était caractéristique des cinémas, ces fauteuils rouges, et cette façon, ce que je trouve toujours excitant.
Il y a beaucoup de rituels dans une séance de cinéma comme ça.
C'était le choix de la place. Alors maintenant, dans certains circuits, certaines salles, on choisit sa place d'avance. Bon, on la choisit sur un écran. D'accord. Donc il y a plus tout ça, puis il y a plus le rideau qui s'ouvre
et puis il y a plus l'ouvreuse.
Et il y a plus l'ouvreuse.
Voilà.
Il y a plus d'ouvreuse.
Ouais. L'ouvreuse, racontez-nous ce que c'était pour ceux qui n'ont pas connu.
Ah, l'ouvreuse, c'est extraordinaire. L'ouvreuse, c'est cette dame qui, après qu'on ait passé le contrôle des billets, là où on nous déchire les billets, ça existe toujours. On arrivait dans la salle et à l'entrée de la salle, il y avait une dame qui nous accueillait et qui amenait jusqu'à une rangée en disant vous voulez. On lui disait où on voulait être, un peu plus en bas, un peu plus en haut. Et puis elle nous trouvait siège, elle nous installait et il ne fallait surtout pas oublier de lui donner une pièce parce que c'est cette pièce qui la faisait vivre.
Et elle avait aussi une lampe de poche quand on arrivait en retard. Et
bien sûr, une lampe de poche.
Elle dirigeait vers le sol pour ne gêner personne.
Exactement.
Paul Dima, même question piège en introduction. À quoi tient cette magie du cinéma selon vous?
Je vais me cacher derrière Alain Cavalier. J'ai lu ça récemment. À l'âge de 5 ans, il a été emmené au cinéma, et puis c'était des salles ouvertes au public. Il a été tellement frappé qu'il a été regardé derrière l'écran. Il a vu qu'il n'y avait personne. Et alors là, il s'est dit, mais c'est pas possible. Comment c'est possible qu'il y ait des gens sur l'écran, et puis en fait, c'est que des images, mais des images qui bougent. Et de là est née sa vocation du cinéma. Et je trouve ça très intéressant comme histoire, parce que ça nous fait prendre conscience que le cinéma est un jeu de représentation. L'image paraît réelle, on dit « tiens, tu le vois » et tout ça, et on ne voit que des images.
Et on est dans l'histoire en plus.
Qui sont... à la fois dans l'histoire et à la fois un point de vue sur l'histoire. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans ce jeu. Le jeu du théâtre est aussi un jeu, hein, quand on dit « je te tue », on sait bien qu'il ne va pas le tuer. Mais c'est un autre jeu, où on est à la fois, on regarde, on est à distance, mais on a une forme de proximité aussi. et on partage un point de vue, et on a son propre point de vue.
Voilà, la force de l'image aussi, hein, c'est qu'on est vraiment plongé à l'intérieur d'un
univers. Je voulais reprendre moi aussi, faire l'intéressant un peu comme...
Oh là là, vous allez ressortir Alain Cavalier aussi ?
Non, André Bazin, un grand critique de cinéma, et qui a dit que le cinéma substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs.
Vas-y, refaites-le-nous plus lentement, pour ceux qui ne sont pas bien réveillés.
Que le cinéma substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs.
Alors, premier film à l'affiche, Être vivant et le savoir, d'Alain Cavalier justement, tout juste sorti en salle. C'est le film du prochain Ciné-Parole que vous animez, pour rappel, pour ceux qui écouteraient cette émission pour la première fois, un ciné-débat au cinéma L'ABC à Toulouse, deux séances, mardi 11 juin, 14h30 et 20h30. Vous regardez le film avec ceux qui sont dans la salle et à la fin, vous en parlez, un temps de relecture pour ressortir en mettant des mots sur ce que l'on a ressenti, vécu, bref, ce qui s'est passé dans notre cœur et dans notre esprit. Être vivant et le savoir, film très original. On va commencer par écouter la bande-annonce non moins originale. Ne soyez pas surpris des silences. On peut quand même introduire peut-être cette bande-annonce. Hein. C'est Alain Cavalier lui-même qui discute au téléphone avec une personne.
Alors, ils ne vous ont pas dit si vous faisiez une chimio ou pas ? À la fin du mois. C'est un petit incident de parcours qui est mais pas une seconde. Pas une seconde, et je ne vois pas pourquoi on s'inquiéterait. Hein ? Qu'on tourne maintenant, qu'on tourne dans quelques mois, quelle est la différence ? Moi, je serai un autre dans 3 ou 4 mois, je ne ferai pas le même film. C'est tout ce que je peux dire, hein ? Et puis c'est tout. Et vous non plus, c'est ça qui est merveilleux. On fera le film avec ce qu'on est au moment où on tournera, hein ? Voilà. Bon, écoutez, mademoiselle Bernheim, hein, que la grâce descende sur vous. Voilà. Voilà. Hein ? Tout est bien. Voilà. Eh bien, à tout de suite. À tout de suite.
Voilà, pardon pour le petit temps mort. Être vivant et le savoir, donc film d'Alain Cavalier, donc film très original. Je vais le résumer et puis vous allez compléter, Louis-Marie Soler. Alain Cavalier, donc qui est donc le réalisateur de ce film, avait prévu de faire un film avec Emmanuel, on dit quoi, Bernheim ?
Ou Bernheim, je crois, Bernheim, c'est ce qu'il dit dans le...
Qui est la femme qu'on entend en fait et qui lui répond au téléphone. Ils avaient prévu de faire un film autobiographique de la romance sur un livre qu'elle a écrit qui s'appelle « Tout s'est bien passé ». Vous en avez parlé ce matin d'ailleurs, mercredi, pardon, matin, à l'antenne. Voilà, lors de votre chronique cinéma. Et puis, voilà, histoire, je vous laisserai détailler quelle est l'histoire. Bref, tout est chamboulé. Cette femme annonce à Alain Cavalier qu'elle est malade et s'ensuit un film sur sa maladie, sur la mort. Racontez-nous.
Ben, c'est exactement ce que vous avez dit, Emmanuel. C'est qu'à partir de là, il voulait en fait jouer le rôle du père d'Emmanuel Bernheim et puis les rôles vont s'inverser. Il va plus jouer son père, mais il va la suivre, il va l'accompagner dans ses derniers moments, puisque vous l'avez compris, elle a un mal incurable et elle va décéder. Donc il va entretenir avec elle une espèce de relation épistolaire. C'est-à-dire, il écrit, il filme, il va la trouver. On la voit de temps en temps, il lui parle au téléphone et il filme les choses qui sont autour de lui, tout en les commentant. C'est comme ça que procède maintenant Alain Cavalier. Il ne faut pas penser qu'il a toujours été comme ça. C'est parce qu'il maîtrise bien le cinéma qu'il arrive à faire ça. Il a commencé en faisant des études de cinéma à l'IDEC. Et à ce moment-là, il pensait faire les films qu'on voyait à l'époque. Il avait été assistant réalisateur de Louis Malle. Et il a fait des films, notamment un, L'Insoumis, avec Romy Schneider et Alain Delon, qui n'a pas du tout marché.
Vous nous raconterez juste après sa filmographie, oui. Après, sur l'histoire, si vous deviez détailler un tout petit peu peu plus. Il ne fait que suivre.
Il ne fait que suivre. C'est-à-dire que il marche et il va. Il est chez lui. Il voyage. Il va voir des amis et il raconte ce qu'il fait. Il filme et il commente ce qu'il est en train de filmer.
Avec en toile de fond, donc, cette femme qui est malade.
Et on ne l'entend pas forcément toujours parler. La femme, de temps en temps, il parle avec d'autres personnes qu'elle. Le plus souvent, à l'exception de cette femme, ils sont hors champ.
Paul Dimain.
Oui, là, par exemple, dans la bande annonce qu'on a passée, on n'entend pas cette femme. On imagine la situation à partir des questions qu'il pose ou des réactions qu'il a. Et on se dit, ah, tiens, il se passe quelque chose. Et puis il dit, écoutez, c'est pas grave, dans 3 mois ou plus, on sera pas les mêmes l'un et l'autre, on fera avec ce qu'on est. C'est-à-dire que le projet initial tombe à l'eau à cause de la maladie qui tombe sur cette femme. Et donc, le film, c'est le autre chose qu'il a dû faire, puisque le projet de départ n'était plus possible.
Alors sur la réalisation, les auditeurs auront compris, je ne l'ai pas vu. Sur la réalisation, c'est semble-t-il très original. C'est pareil, vous pouvez nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'aussi original. Il filme lui-même en partie avec un caméscope, c'est ça ou...
Avec maintenant une petite caméra numérique. Il est tout seul. Il filme ce qu'il voit. Ça fait un moment qu'il procède de cette façon. Et d'ailleurs, maintenant, il considère qu'il n'est plus un cinéaste, qu'il est un filmeur. D'ailleurs, il y a un de ses films qui s'appelle Le Filmeur, qui a été le début de cette démarche. Il avait déjà commencé avant avec un cinéma plus épuré. Et donc, maintenant, on le voit dans le film. Il voyage en train. Alors, on est dans le train avec lui. Il va à l'île aux Moines. Alors, on est à l'île aux Moines avec lui. Il est en visite chez des amis, dans les appartements des uns, des autres, pareil, on le voit. Alors, on entend de temps en temps les personnes qui l'invitent, ce que je disais, et lui qui converse avec eux, et après, il commente ce qu'il filme, il regarde ses pieds, il filme ses pieds, il parle de ses pieds. Alors, c'est étrange de raconter ça comme ça, parce que ça peut paraître étrange.
Oui, vu comme ça, on se dit qu'on peut vite s'ennuyer. Mais
c'est pas le cas, parce que ça a l'air anodin, et il y a quelque chose qui passe, de cette angoisse, parce que s'il voulait réaliser ce film avec Emmanuel Bernheim à propos de l'accompagnement qu'elle avait fait à son papa qui voulait mourir, qui était en train de mourir, et jouer son rôle, c'est qu'en fait, Cavalier a toujours dit que la mort l'importait peu. C'est-à-dire qu'il attendait. Mais enfin, quand même, malgré tout, ça l'inquiète. Alors, en faisant ce film, le film avec Emmanuel Bernheim, il voulait faire une espèce de répétition. Répétition qu'il ne peut pas faire à cause des circonstances. Donc, il va parler de ça, mais d'une autre façon. Il a trouvé un autre point de vue et il a une autre façon de montrer ces choses qui l'inquiètent en parlant de 3 fois rien, en filmant 3 moineaux sur le bord d'une fenêtre ou en montrant quelques sculptures et des collages et un tableau. C'est comme ça, c'est anodin, c'est le quotidien finalement, c'est le quotidien qui transfigure un petit peu tout ce qu'il va pouvoir ressentir.
Alors le journal de la vie, j'ai lu cette critique, comment filmer la fin d'une vie ? Alain Cavalier apporte sa réponse étonnamment légère, espiègle, débordante d'humanité, pleine de poésie et de grâce pour parler de la maladie et de la mort. Il fait entrer pleinement la vie dans son cinéma et il dit cette phrase, le cinéma m'aide à dominer la mort. Pourquoi c'est un beau film, Paul Dimain ?
Parce que justement, il laisse apparaître dans les mises en scène qu'il fait avec des objets, avec des légumes, avec ce qu'il observe aussi, comment l'accompagnement de cette femme, qui est en fin de vie, modifie son regard et lui fait prêter attention aux petits détails. Il dit, je filme des plans, puis après d'autres. Et au montage, tout ça, ça s'articule, ça prend du sens. Alors c'est assez déroutant, mais c'est en même temps très profond, parce que on s'aperçoit que dans tout ça, il y a une force de vie en même temps. Il y a plein de choses qui sont dites. Il met un Christ à côté d'un autre Christ, et puis il dit, appuie-toi sur lui. Il place des légumes qui sont comme des personnages qui assistent. Alors, des légumes qui se décomposent, mais c'est la mort et c'est la vie aussi, parce qu'ils sont là. Il y a plein de petits signes comme ça, c'est-à-dire qu'il nous parle de la mort et peut-être de ses inquiétudes à lui aussi, mais en filmant de la vie. Et il y en a qui disent, c'est autant de pièces d'un puzzle qui est très pudique, très, très léger, avec de l'humour aussi, hein, il prend de la distance, mais qu'une façon extrêmement subtile de parler de l'accompagnement, de la fin de la vie ou de la vie qui va prendre fin pour autre chose.
La vie est partout, elle palpite partout, et comme vous avez désormais un outil pour l'enregistrer sans avoir besoin d'attendre d'avoir un producteur, des acteurs et un scénario, eh bien il n'y a plus qu'à filmer. C'est, en fait, c'est un film aussi très contemplatif, hein, oui. Qui parle de la mort, mais en fait qui montre que la vie est dans
toute
la
chose.
Vie est là. Voilà.
Voilà. Et c'est ce qui est extraordinaire chez lui. C'est-à-dire qu'il sait à quel moment il faut prendre une distance. Il sait à quel moment il ne filmera plus son ami. On la voit en gros plan et à un certain moment, ben, on ne la verra plus parce qu'elle est à un stade où ça ne serait pas bien. Et il n'est pas dans le voyeurisme, il est toujours juste, il est toujours précis. Il s'autorise, alors il est un petit peu, il est un petit peu prétentieux là, quand il filme son ami, de temps en temps il se filme en pied, puis il filme ses chaussures en disant « Oh, elles sont vraiment bien mes chaussures ». Voilà, c'est lui, c'est Alain Cavalier.
Voilà, on va faire une première pause. Est-ce que vous voulez introduire la pause musicale, Louis-Marie Soler ?
Ben c'est musique a choisi Alain Cavalier pour illustrer son film. Et il avait choisi des Nocturnes de Chopin. Voilà une, la fameuse numéro 2, opus 9. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel l'émission, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi de 19h à 20h, et Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, centre jésuite dans le sud-ouest. Deuxième film, donc le chef-d'œuvre humaniste, puisque c'est les catégories qu'on a choisies, pour ceux qui voudraient revoir ces films ou se faire une DVD tech, comme on dit, ou à d'avoir des idées de beaux films à voir seul ou avec d'autres. Nous nous sommes tant aimés, en italien C'eravamo tanto amati, de Ettore Scola, film de 1976. Alors je vais raconter l'histoire un tout petit peu, je ne sais pas si ça va aider à comprendre une bande-annonce en italien, parce qu'on va être pauvre en extrait. L'histoire de trois amis en fait qui ont été tous les trois dans la résistance italienne lors de la Seconde Guerre mondiale, et on suit en fait ces trois amis après dans leur vie, leur chemin, on va dire commun, seul, ils se croisent et ils se recroisent, et au long de ce film, c'est aussi un portrait de l'Italie d'après-guerre. On va écouter un court extrait de la bande-annonce en italien au moins pour se mettre dans l'ambiance.
Antonio, non mi riconosci?
Ma quanti anni sono passati?
Tutti per uno,
uno per tutti!
Francamente noi altri ci proviamo un po' sempre quello di governare Carucci, ma quella volta rimasi colpito da quel viso...
Voilà, tout le monde n'est pas bilingue en italien, donc on s'arrêtera là, puisqu'on n'a pas trouvé d'extrait en VF. Allez, l'histoire pour commencer, comment vous la présenteriez? On va changer. Paul Dima, comment vous compléteriez la très rapide présentation que j'ai faite?
Le titre dit « Nous nous sommes tant aimés ». Une amitié qui tenait pendant le temps de la résistance, où les trois amis, Gianni, Nicola et Antonio, étaient vraiment très soudés, même s'ils avaient des provenances sociales et politiques différentes. Le combat les tenait.
À la vie, à la mort, comme on dit.
Voilà. Et puis, la paix a mis à mal leur amitié. C'est-à-dire qu'ils ont rencontré une femme et dont ils ont été plus ou moins amoureux les uns et les autres. Leurs parcours se sont croisés. Il y a eu des brouilles, ils se sont séparés, ils se sont remis, ils se sont fâchés. Donc il y a à la fois de l'ambition, il y a à la fois de la jalousie, il y a à la fois... Et puis en même temps, voilà, on ne peut pas se quitter quand même. Donc c'est à la fois un regard sur ce trio qui augmente avec les épouses, les familles, mais aussi c'est un regard sur 30 ans de l'Italie et de son évolution après-guerre. Et le côté génial du film aussi, c'est que c'est aussi les 30 ans et plus du cinéma d'après-guerre qui est révélateur de l'évolution de l'Italie. Donc il y a un jeu, c'est ancré dans l'histoire de l'Italie, c'est ancré dans l'histoire du cinéma, qui est le reflet de l'évolution de l'Italie aussi à ce moment-là.
Alors si on commence par le dernier, qu'est-ce que ça nous dit de l'histoire du cinéma italien, Louis-Marie Solaire?
Ça nous parle de cette époque du cinéma italien, cette grande époque du cinéma italien où cette cinématographie était une des plus prestigieuses du monde, avec évidemment les Américains qui ont toujours été largement en tête, mais eux, eh bien, se sont adaptés aux circonstances qui étaient l'après-guerre, et il a fallu, on tournait des films, il n'y avait plus de studio, tout était cassé, alors il a fallu sortir les caméras, aller dans la rue et imaginer une autre forme cinématographique. Et cette forme, comme le disait justement Paul Dima, a évolué dans le temps, et ça évolue vite, à la fois par les techniques, à la fois par les sujets, et c'est d'ailleurs dans le film un moment. Alors le film a la structure d'un flashback. D'emblée, on sait qu'on va revenir sur une histoire. Donc,
et qu'est-ce, c'est... qu'est-ce qu'on voit dans le film du cinéma italien, juste? Est-ce que vous pouvez rappeler ça pour ceux qui l'ont pas
vu? Ah ben, on voit du cinéma italien, on voit des références à quelques grands auteurs et quelques grands réalisateurs italiens. Notamment, les trois amis se retrouvent sur la place de Trevi, à côté de la fontaine de Trevi, au moment où Fellini tourne la fameuse scène de la fontaine pour la Dolce Vita, où Anita Ekberg est dans l'eau et Marcello Mastroianni est au bord et elle l'appelle pour qu'il vienne dans l'eau. On reconnaît cette fameuse scène de la Dolce Vita, mais là les trois amis vont se retrouver là. Après, il y en a un d'entre eux, c'est Nicolas, qui est intellectuel, féru de cinéma, et son film de chevet, c'est Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. Voilà, alors on décortique tout ça, et puis après, on a d'autres références, plus ou moins précises, plus ou moins fugaces, du cinéma italien, et il fait des clins d'œil, Ettore Scola, à la façon de raconter ces histoires et la façon dont on le faisait dans le cinéma italien à l'époque, au moment où tout évoluait. C'est très fort de sa part, c'est à la fois un regard sur l'histoire de son pays et un regard sur l'histoire du cinéma de son pays pendant 30 ans.
Alors si on passe justement à l'histoire du pays, il faut rappeler un tout petit peu ce qui s'est passé aussi dans l'Italie de l'après-guerre. En tout cas, moi, ce que j'en sais ou ce que j'en ai vu dans le film, c'est l'importance de l'extrême gauche dans l'Italie d'après-guerre. On pense forcément aux brigades rouges aussi.
Oui.
Un pays traversé par un certain idéalisme très à gauche et puis par les années glorieuses de l'après-guerre, les années glorieuses économiques.
Alors c'est ça, il y a la confrontation de deux mondes qu'on retrouve dans le film, d'ailleurs avec les trois amis. Où il y en a un qui est avocat et qui va rentrer dans des histoires de magouille, de reconstruction et faire fortune là-dedans, mais il s'en cache parce qu'il ne veut pas que les deux autres le découvrent. Parce que dans ces deux amis, il y en a un qui est donc féru de cinéma et lui, il est de la gauche, mais intellectuel, et il défend dans un ciné-club le voleur de bicyclette, au point que il choque les bourgeois qui assistent à la représentation, et il est professeur, il se fait mettre à la porte, parce qu'il défend, vous êtes un dangereux anarchiste, enfin on l'accuse de tous les maux, et il perd son boulot à cause de son plaidoyer pour le film Le voleur de bicyclette.
Et le combat de sa vie, justement, que l'on voit, comment vous le diriez en fait? C'est un intellectuel qui veut, changer quoi en fait?
Qui veut changer la société, sortir de ce monde libéral, à tout craint, mais sur la magouille et sur la reconstruction qui se fait un peu n'importe comment. Et puis, le troisième protagoniste, c'est
Antonio.
Antonio, qui lui est du peuple. Enfin, il est brancardier.
Seul vrai homme du peuple.
C'est le seul vrai, voilà. L'intellectuel, il est du côté du peuple, mais il est dans sa logique intellectuelle. Il n'est pas dans le peuple. Et l'autre reste brancardier et il est d'ailleurs rejeté un peu et par sa femme et par...
Pourquoi ça a autant touché les Italiens? Qu'est-ce que ça dit en fait de l'Italie de l'après-guerre?
Eh bien, ça dit cette espèce d'explosion et juxtaposition en même temps de mondes qui, une fois la paix revenue, vont en profiter pour s'enrichir et de façon malhonnête, d'autres pour élaborer un système juste, parfait, etc. Et puis d'autres qui, dans le peuple, vivent comme ils peuvent et essaient de s'en sortir.
Et s'en sortent au mieux, c'est un peu ce que
ils étaient du côté des perdants.
Ils étaient du côté des perdants. Et ils se disent... Souviens-toi, hein, on rêvait de transformer la société et c'est la société qui nous a transformés.
Voilà, donc c'est un film qui est traversé par une vraie nostalgie, non, Louis-Marie Soler?
C'est un film aussi sur la mémoire, ça.
Moi, j'ai trouvé que c'était une espèce de... pas de satire, mais enfin, ça pouvait ressembler à une forme de satire presque, vous diriez, ou...
Peut-être pas de satire, mais c'est cette nostalgie qui emporte le film et qui porte le film. De satire, bon, mais les Italiens ont toujours été comme ça. Quand ils décrivent leur société, ils aiment bien ce qu'ils sont, ils aiment bien ce qu'ils vivent, mais ils aiment bien aussi s'égratigner, se moquer un peu d'eux. Mmh. C'est partie intégrante de leur façon d'être, et en tout cas d'être à cette époque-là, et de cette façon de le montrer dans les comédies. Pourquoi les comédies italiennes avaient tant de succès? C'est parce que on voyageait entre ces deux, où on riait copieusement à des moments qui étaient franchement très bêtes, de temps en temps des blagues potaches, puis d'autres choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus intellectuelles. C'est ça qui faisait le charme du cinéma italien. C'est ce à quoi veut rendre hommage Ettore Scola dans son film, en racontant cette histoire de trois hommes qui sont finalement qui étaient amis, mais que tout va séparer. Ouais.
Pourquoi c'est un chef-d'œuvre, Paul Dima?
C'est un chef-d'œuvre parce que au service de ce projet-là, il y a toute une écriture cinématographique, pardon, qui est très très novatrice. Il transpose au niveau des éclairages, de la couleur. Il y a des passages d'une époque à une autre, où il y a des passages d'un champ à un autre. C'est-à-dire que les personnages sont dans la même prise de vue, mais il y en a un qui est dans le noir, l'autre qui est éclairé. Parce qu'on entend la pensée de l'autre, mais l'autre n'entend pas ce qu'il pense, ce que nous entendons. Donc c'est très fort. Il y a même un dialogue avec l'épouse qui est morte, qui est dans un cimetière de voiture. Elle a attrapé un accident, elle est morte, et elle est éclairée la nuit dans ce cimetière, et elle parle à son mari qui est dans l'ombre au pied de la voiture. Et ben on marche. Enfin, c'est.
Oui, et il y a quelque chose que fait aussi Scola et qu'on voit rarement dans les films, parce que c'est un des axiomes auxquels justement l'acteur et l'apprenti acteur ne doit pas déroger, à savoir on ne regarde jamais la caméra. Et ben dans ce film-ci, oui, parce que les personnages centraux de temps en temps se tournent vers le spectateur d'une certaine façon, le prendre à témoin. D'ailleurs, d'emblée, on dit la structure du flashback et on voit le personnage, c'est le personnage de Gianni, hein, Vittorio Gassman, qui s'apprête à plonger dans sa piscine et son plongeon s'arrête. Et on entend la voix de Nicolas qui annonce au spectateur que Gianni achèvera son plongeon quand il aura fini de raconter son histoire. Voilà, on est prévenu.
Alors j'ai une question bonus pour vous. Vous m'avez presque convaincu, c'est un chef-d'œuvre. Moi j'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dans le film. Enfin peu importe, l'idée c'est pas de me convaincre. Mais pour ceux qui ne sont pas forcément autant féru de cinéma que vous, ou aussi attentif au talent des réalisateurs ou à l'histoire de l'Italie d'après-guerre, qu'est-ce qu'il y a dans ce film qui peut parler à chacun, pour finir, Paul Dima?
Parce que ça vient toucher ceux qui nous animent ou ceux qui nous questionnent, c'est l'ambition, la lâcheté, le désir de réussir, le pouvoir, et tout ça comme dans le genre la comédie à l'italienne. C'est une formidable catharsis qui se passe devant nous, c'est-à-dire qu'on voit tout ça dans une comédie à la fois grave et légère, se jouer entre des personnages dans lesquels on peut tout à fait se reconnaître ou reconnaître des gens qu'on connaît bien. Je veux dire, on a le spectacle du monde avec ses différences qui s'affrontent, qui se battent, qui se rencontrent, qui s'aiment plus, qui...
Exactement. On est un peu tous ces personnages à la fois.
Voilà, donc c'est un film qu'il faut mieux voir à 20 ou 30 ans pour ne pas le voir à 60 et faire le même constat que d'autres dans le film.
Mais à ce moment-là...
C'est vrai, il y a une forme de relecture de vie quand même.
Ouais. Mais à ce moment-là, on pleure un peu plus. Alors.
Non, on pleure un peu plus. On va faire une deuxième pause. Vous voulez introduire la deuxième pause?
Armando Trovajoli qui a composé, c'est un des grands compositeurs de musique de films italiens de l'époque, qui a écrit la partition du film d'Ettore Scola, et c'est italien.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Louis-Marie Salaire, producteur de l'émission cinéma de notre radio N'oubliez pas l'ouvreuse, est avec nous, et Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, centre jésuite dans le sud-ouest. Dernier film donc à l'affiche de cette émission, Marcellino Pane e Vino, Marcelin Pain et Vin en français. C'est un film donc de Ladislao Vajda, c'est comme ça Louis-Marie Soler qu'il faut dire.
Ah oui, c'est compliqué.
C'est pas facile.
C'est,
hein.
C'était un Hongrois qui a travaillé un peu chez lui, puis après qui a travaillé ailleurs qu'en Hongrie et en particulier en Espagne.
Alors, Marcellino Pane e Vino, donc chef-d'œuvre spirituel du mois. Pour le coup, je confesse que j'ai eu plus de facilité à rentrer dans ce film. Magnifique film, grâce à vous que j'ai à nouveau découvert, décidément, quelle chance. On raconte rapidement l'histoire, en essayant peut-être de ne pas raconter la fin, ça va être difficile. C'est donc l'histoire d'un petit garçon. En Italie ou en Espagne ?
C'est en Espagne.
En Espagne, hein. Un petit garçon qui est recueilli dans un monastère d'hommes de franciscains. Voilà, ça met un peu le bazar dans la communauté. Les frères décident de le garder et on suit donc l'itinéraire de ce garçon qui comment expliquer ça, qui confond tout le monde, qui est un peu c'est ce que je disais en introduction, un peu le reflet. Aussi de ce qui fait le fond de la vie chrétienne. Alors on va tout de suite à la conclusion, hein, mais avoir une âme d'enfant pour pouvoir voir Dieu. Comment vous raconteriez l'histoire, Louis-Marie? Pas facile, hein?
Non, c'est pas facile, mais il a eu de la chance, finalement, ce petit Marcellino abandonné, et de tomber sur ces hommes qui l'ont élevé. Alors, bon, il s'est un peu ennuyé avec eux, quand même, un peu beaucoup, hein. Il voyait pas beaucoup d'autres enfants de son âge, mais il a réussi à se construire et à trouver un compagnon de jeu, qu'il a vite remplacé par
Manuel,
par un Christ.
Voilà.
Voilà. En croix.
Difficile de raconter. Hein. Pourtant, ça dure pas 10 minutes, hein, mais.
Mais oui, mais c'est voilà. Et puis, comme il est au point sur tout ce qui concerne l'Église et la messe, il se dit bien que il a besoin de quelque chose. Cet homme-là, sur sa croix, il doit souffrir. Bon. Un petit morceau de pain et un peu de vin, quoi.
Voilà, alors bon, vous racontez presque la fin, mais...
Non,
mais comme tout est assez énigmatique, on va...
Bah, c'est quand même dans le titre, hein, Marcellino Pane e Vino.
On va écouter un premier extrait, c'est quand le petit garçon Marcellino, justement, est recueilli aux portes du monastère, dans cette communauté franciscaine qui se monte en Espagne.
Un matin, pareil à tous les autres matins, le frère portier eut une grande surprise. Un garçon, c'est un garçon.
Je viens de trouver un enfant devant la porte. C'est un garçon, venez voir. Regardez, il est très beau. Je l'ai trouvé dehors. Je l'ai pris et il s'est mis à pleurer.
Que se passe-t-il? Le bon petit, que le Seigneur soit béni.
Qui a pu le déposer ici?
Vous disiez, mon cher frère, qu'il s'est mis subitement à pleurer. Pourquoi?
Je sais pas.
Je me demande ce que nous allons faire de lui.
Ce bébé est magnifique. Défense d'y toucher.
Voilà, donc la scène, c'est un frère donc qui trouve Martin donc aux portes du monastère, et puis après toute la communauté qui arrive, et puis déjà il y a des espèces de jeux de rôle qui se mettent à l'intérieur de la communauté. En tout cas, ils sont émerveillés, presque comme à Noël. Paul, qu'est-ce que ça attire comme premier commentaire chez vous?
Alors c'est très beau cette scène-là et celles qui suivent. Cette communauté de frères est pas du tout préparée à être père. Et en même temps, l'irruption de la vie, de ce bébé qui leur tombe dans les bras comme ça.
Orphelin, disent, hein, il faut le dire.
Orphelin, oui, abandonné. Voilà. Hein, abandonné, bébé devant le couvent. Et on voit qu'ils sont pris par cet enfant. C'est cet enfant qui les prend, en fait. Et le responsable de la communauté, le père...
Père gardien, on appelle ça, voilà, chez les franciscains.
Dit, attendez, faut essayer de lui trouver une famille. Et ils font des démarches dans les villages aux alentours pour dire, bon, qui pourrait accueillir, etc. Et puis, en fin de compte, il y a plusieurs obstacles, il y aurait des possibilités, mais ça ne se fait pas, ça ne peut pas se faire. Ils choisissent que ça ne se fasse pas avec quelqu'un qui voudrait bien, mais ils estiment qu'il n'est pas bien placé pour le faire. Donc, ils le gardent. Ils le gardent et il y a un jeu entre cet enfant qui grand, ce bébé, puis cet enfant qui grandit, 5 ans, etc., qui rencontre une fois une dame avec son fils, qui a le même âge que lui, hein, Manuel, et il s'en fait un compagnon imaginaire. Il joue avec, il lui parle, etc. Mais... Il lui manque quelque chose à cet enfant.
C'est pas anodin que ce soit dans une communauté franciscaine, parce que oui. Les franciscains ont quelque chose d'une grande simplicité, d'une grande pureté de cœur. En fait, on a l'impression que ça vient comme révéler aux frères ce qui fait le cœur de leur vocation, non ?
C'est oui, et ce cet film. Enfant les appelle non pas par leur nom de franciscains, oui, mais ce qu'ils font, leurs petits défauts, tout ça.
Donc il y a le frère malade, il y a
le frère malade, il y a le frère... Voilà, et puis il amène un esprit d'enfance, il le développe dans la communauté, et c'est très beau parce qu'il y a une forme de conversion qui se fait là déjà. Et en même temps, de non-possession, c'est, voilà, avec cet enfant, il faut lui permettre de grandir et il ne faut pas le... voilà.
On va écouter un deuxième extrait, cette fois c'est le maire du village, qui est donc la famille à laquelle a failli être confié Marcellino, et puis l'un des frères s'était repris devant la dureté de cet homme. Cet homme finit par être élu maire du village au bas du monastère, ou quelque chose comme ça, et il monte voir les frères, et c'est le dialogue entre ce nouveau maire et le supérieur, le père gardien de la communauté.
Je t'écoute. J'exige que vous m'expliquiez pourquoi un de vos frères m'a offensé. Et que vous me donniez le petit.
Pourquoi ?
Parce que je suis capable de lui donner une bonne éducation. Et autrefois, vous me l'avez refusé. Je suis un honnête homme. Je ne permettrai à personne au monde d'en douter. De plus, maintenant je suis le maire. Et j'aimerais bien savoir...
Tu aimerais savoir quoi ?
Si vous oseriez me le refuser encore une fois.
Tu viens de le dire.
Ainsi donc, vous me le refusez.
Oui.
Pourquoi ? Je suis un voleur, un malfaiteur ou un assassin ?
Tu n'es rien de tout cela. Mais tu es un être injuste et orgueilleux.
Je veux avoir l'enfant.
Tu mens. Tout ce que tu veux, c'est satisfaire ton orgueil. Tu n'aimes pas cet enfant, tu ne t'inquiètes pas de lui. Ni de ce qui lui convient. Seulement, tu vas avoir raison. Et l'emporter sur nous. Tu n'auras pas l'enfant.
C'est bon. Gardez-le donc avec vous, cet enfant. Mais pas ici. Ici, non.
Voilà, c'est relecture de vie, là aussi, assez radicale, hein, de rencontrer un père gardien quand on est énervé comme ça. Louis-Marie, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? En fait, il y a des personnages... Paul disait avant l'émission que c'est un conte.
Oui.
Il y a des personnages qui paraissent parfois très caricaturaux. Voilà, il y a vraiment le méchant, l'enfant, les très gentils, la maman qu'il rencontre à un moment a vraiment le visage d'une maman parfaitement rayonnante, belle, bref, la maman dont on rêve quand on est petit, c'est fait exprès.
Oui, c'est fait exprès, mais il faut se replacer aussi, on parlait du contexte historique de ce qui se passait en Italie tout à l'heure pour Nous nous sommes tant aimés, et pour celui-là il faut en parler aussi, on est en 55 et 55 c'est la grande époque du franquisme, hein. Et c'est une dictature en Espagne, et au cinéma c'est pas facile de faire des films, hein. C'est compliqué, là aussi il y a une censure terrible. Alors on parle de valeurs et sur ces valeurs là, les valeurs que qu'on prône dans le film, il est difficilement attaquable le film là. Et on peut écorner un personnage comme le maire, qui est un personnage important dans la société espagnole et surtout la société espagnole de cette époque, et lui dire ses quatre vérités. Mais
donc on peut imaginer que c'était un maire franquiste.
Ah ben ils le sont tous forcément, plus ou moins de bonne grâce, mais ils le sont tous forcément. Et c'est un beau contrepoint et qui est fait de façon assez adroite pour ne pas être censuré.
Qui est ce Ladislao Vajda?
Oh là,
il a. J'ai pas trouvé grand chose.
Non, c'est vrai, il a pas laissé de grandes choses, de grands films dans les mémoires, si ce n'est celui-ci.
Qui a été primé, ce film ou...
C'est son film le plus célèbre primé, non. Il n'a pas reçu de prix. Il avait aussi réalisé une version du Barbier de Séville qui était bien connue en France parce qu'il y avait Luis Mariano dedans. Ah, Luis Mariano, c'est une grande vedette en France. Et puis, il est aussi connu, le film, à cause du petit garçon qui a été choisi parmi plein d'acteurs, plein d'enfants. Beaucoup, ils en avaient vu beaucoup pour réussir à trouver l'enfant qui serait capable de jouer le rôle de Marcelino. Il faut penser qu'à l'époque, il y avait un enfant vedette extraordinaire en Espagne, qui était une très très grande vedette, Joselito. Et Joselito n'aurait pas convenu au film parce qu'il avait une façon de jouer. Il était acteur, Joselito, et il fallait le mettre dans des films qui le mettent en valeur, et qu'il pouvait pas interpréter le rôle de ce petit garçon élevé par ses moines. Alors on avait trouvé Pablito Calvo qui est resté une grande vedette en Espagne, mais sans pour autant tourner. Il n'a pas tourné beaucoup d'autres choses après. Et puis il est mort assez tôt. Hein. Il était né en 48. Il est mort en 2000, Pablito Calvo. Donc il reste dans les mémoires du cinéma espagnol et des Espagnols.
On va écouter un dernier extrait, puisque donc ce Marcelino, il lui était interdit de monter un escalier qui mène à un grenier. Dans ce grenier, dans lequel il finit évidemment par s'aventurer, il trouve un Christ en croix et se noue une relation mystérieuse entre ce Christ en croix et lui, qui finit par devenir vivant, en tout cas au début on a l'impression, juste pour lui. Voilà l'un des extraits de leur dialogue à tous les deux.
Tu es bien silencieux. À quoi penses-tu, Marcelino?
Et où elle est, ta mère, maintenant?
Elle est avec la tienne.
Et qu'est-ce qu'elles font, les mères?
Elles donnent, Marcelino. Elles donnent toujours.
Elles donnent quoi?
Elles donnent tout. Elles se donnent elles-mêmes. Elles donnent à leurs enfants toute leur vie, la lumière de leurs yeux, jusqu'à ce qu'elles deviennent vieilles et ridées.
Et l'aide?
Non, Marcelino. Les mères ne sont jamais laides.
Je m'en vais, on nous appelle. Et toi, t'aimes beaucoup ta mère?
De tout mon cœur.
C'est comme moi la mienne.
Vous n'allez tout de même pas vous laisser berner par un enfant, mon frère. Vous devez absolument aller jusqu'au bout pour essayer de le surprendre en flagrant délit.
Mais que lui dire alors?
Rien, ne dites rien. Vous m'apprendrez ce qui s'est passé et j'aviserai.
Voilà, ça finit par le dialogue de deux frères, parce qu'ils sont étonnés de ce qui se passe, puisque disparaît de la nourriture, ce que Marcelino apporte à ce Christ en croix, du pain et du vin. On ne racontera pas la fin, si ça vous va. Pourquoi c'est un chef-d'œuvre, Paul Dima?
Parce que il dit que Dieu est accessible aux enfants, ou que les enfants ont un accès à Dieu privilégié. Si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume, dit l'Évangile. Et là, on voit dans cette histoire que cet enfant qui souffre de l'absence de sa mère, puisqu'il il l'a jamais vu, jamais connu, et qui, dans ce Christ... Il lui demande, et toi aussi, tu l'aimes, ta maman? Et le Christ lui répond, oui, de tout mon cœur. Il se sent une commune humanité, fraternité. Et voilà. Et donc,
c'est assez frappant d'ailleurs, hein, parce qu'évidemment, bon, personne n'a jamais entendu le Christ dire qu'il aimait sa mère comme ça, avec une voix d'homme.
Eh ben non. Mais alors cet enfant devient, d'une certaine façon, presque le protecteur. Enfin, il voit que, ben, il doit souffrir, ce monsieur qui est en croix, et en cachette, il dérobe du pain, du vin, enfin, on l'a dit, parce qu'il vient le nourrir. Et c'est un très beau conte, parce que là, le Christ en croix s'anime et prend le pain et prend le vin. Et Marcellino est très content de subvenir aux besoins de ce Jésus en croix.
Voilà, un film vraiment clair comme l'eau d'un ruisseau de montagne, Louis-Marie Soler.
Oui, il y a le
mot de la fin, chef-d'œuvre.
J'ai dit une ânerie à propos.
Si vous n'en avez dit qu'une, ça va.
Enfin, plusieurs, puisque à propos de prix, il en a eu.
Je n'osais pas vous reprendre. Hein. Moi, je n'avais pas le mot d'or en dessous.
Il a eu l'ours d'argent à Berlin, et le film a eu à Cannes une mention spéciale, et aussi une mention spéciale pour le petit acteur dont je parlais, donc... Pablito Calvo.
Alors pourquoi un chef-d'œuvre ?
Parce que...
Parlez-nous avec votre cœur, pas Monsieur Cinéma.
Mais je parle... Et bien sûr, avec mon cœur, le même que celui de Paul Dimas, qu'il a dit, est remarquable. Et puis il y a aussi le fait que... Pourquoi cet enfant aussi est, comment dire, finalement... un peu coincé, comment c'est bien montré dans le film, parce qu'on ne quitte jamais le monastère ni ses environs. Alors on comprend qu'il y a plein de choses autour, bien loin, c'est ce qu'il pense, mais qu'est-ce que c'est toutes ces choses qui sont autour de lui, et il ne connaît pas bien, et il trouve du réconfort auprès de ce dialogue avec cet homme en croix, et c'est ça qui est touchant, parce que il a peut-être et probablement un sentiment, il ne doit pas le sentir comme ça, le personnage là, de Marcellino, mais il se sent un petit peu prisonnier. Puis il n'a pas sa maman, et puis il ne peut pas aller voir tout ce qui se passe autour. Alors, il a du réconfort en parlant, et il a l'impression comme ça de ne pas être oublié. C'est ça qui est fort, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est touchant.
Oui. Ouais, c'est ça, c'est Dieu qui vient habiter aussi une solitude. Hein, cet enfant, il est seul, hein, il en est à s'inventer un ami imaginaire. Voilà, c'est vraiment un très beau film. Merci beaucoup, messieurs, une fois de plus, de vos belles analyses pour ces trois films. Être vivant et le savoir, donc de Alain Cavalier, c'est donc le thème du prochain Ciné-Club, Ciné-Parole que vous animez. C'est donc mardi prochain, 11 juin, deux séances à 14h30 avec Paul Dima et à 20h30 avec Louis-Marie Soler, en tout cas à l'issue de ces films. Et je rappelle donc les deux autres films dont on a parlé, Nous nous sommes tant aimés, de Ettore Scola, et Pane y vino, de Ladislao Vajda. Un grand merci à vous, et rendez-vous donc nous est donné. Allez, on aura peut-être une dernière séance. Non, rendez-vous sera donné à la rentrée. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.